Monseigneur, mesdames et messieurs, bienvenue à Saint-Germain-l'Auxerrois pour la 5e conférence de ce carême à Notre-Dame qui a lieu donc encore cette année à Saint-Germain-l'Auxerrois sur la mystérieuse musique des sacrements. Aujourd'hui, c'est la figure de Huysmans qui va attirer notre attention. Vous aurez remarqué, car vous avez tous préparé cette conférence, que nous ne suivons pas l'ordre chronologique. Nous sommes plutôt même au début de la série des grands écrivains que nous avons réservés. Mais Huysmans est un bon témoin de l'aventure qu'il y a à passer du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel. Et ce chemin compliqué est magnifiquement illustré par à la fois la vie et l'œuvre de Huysmans. On pense bien que un peuple esclave qui doit traverser un désert pendant 40 ans, quelqu'un qui annonce sa mise en croix et qui est transfiguré juste après, ça fait des secousses un peu compliquées dont il faut savoir rendre compte. Alors pour nous conduire sur ce chemin délicat, c'est Monsieur Gaël Prigent qui vient d'Angers pour nous faire cette présentation. Gaël Prigent est père de famille et il est professeur en hippocagne, en littérature. Il s'est intéressé dans ses travaux, ses publications et sa thèse sur le lien entre l'œuvre de Huysmans et la narration biblique, comme depuis le début de ces conférences, nous y sommes invités. Gaël, si vous voulez monter à votre tribune pour nous aider à faire que le chemin de croix devienne un véritable chemin de vie.
Monseigneur, mon père, mesdames et messieurs, dans un texte moins connu qu'à rebours, ou la cathédrale, Huysmans a parlé précisément de l'église où nous nous trouvons. Après en avoir fait l'histoire architecturale et esthétique, comme il en a pris l'habitude dans ses textes de symbologisme ecclésial, il y formule ce qui en fait, selon lui, l'originalité parmi les autres églises de la capitale, avec son intérieur des plus intimes, des plus vraiment religieux qui soient à Paris, et son extérieur qui demeure un régal d'art. Et revenons à l'abside, qui est selon moi la partie la plus savoureuse de Saint-Germain-l'Auxerrois, car l'on peut s'y croire en même temps dans un oratoire de la fin du XVe siècle et dans une église de campagne de nos jours. L'on dirait que l'odeur particulière de tout l'édifice s'y concentre, une odeur de salpêtre relevée par une très fine pointe de cire consumée et d'encens. Là, dans l'abside, cet arôme d'églisette de village, le dimanche après le salut, persiste, surtout par les temps de pluie, et vous aide à vous transporter bien loin de Paris et de cette place du Louvre, devenue l'un des plus bruyants lieux de rendez-vous des voitures à vapeur et des tramways. Il y a dans cette façon de voir dans cet obscur refuge un tremplin unique à Paris de rêve, quelque chose comme un concentré de la spiritualité huysmansienne et de la sacramentalité qui traverse son œuvre. On y trouve cette sensualité dont l'écrivain naturaliste ne se départira jamais, cette attention à la dimension esthétique de la vie religieuse qui l'a mené jusqu'à la conversion, et enfin cet attrait pour l'ailleurs qu'ont partagé avec lui bon nombre de ses personnages de fiction, comme déjà des Saintes dans un rebours, cherchant dans les tableaux bibliques de Gustave Moreau un moyen de se transporter loin de nos mœurs, loin de nos jours. Le sens de l'odorat est d'ailleurs l'un de ceux qui trahissent le mieux chez ce sensitif la trame d'une évolution qui l'a mené des vapeurs des bas-fonds à l'odeur de sainteté, de l'intérêt romanesque pour les mauvais encens des magasins de piété, à la réflexion sur le symbolisme des parfums liturgiques. Mais sans doute faut-il néanmoins s'entendre sur cette sacramentalité. Et tout d'abord du fait de l'importance que revêt cet événement considérable que fut pour Huysmans sa conversion en 1892. D'autre part également du fait d'une existence chrétienne, tant spirituelle que littéraire, extrêmement attentive au cheminement de la grâce et à la présence eucharistique, mais peut-être assez étrangère à certains sacrements comme le mariage par exemple. C'est donc à une spiritualité sacramentelle que nous sommes conviés à nous intéresser en lisant les œuvres de Huysmans, qui exige tout d'abord pour mieux la cerner de prêter attention à la manière dont, après une période d'incubation, ainsi qu'il le formule dans sa préface écrite 20 ans après à rebours, l'explosion de la grâce se fit en lui. C'est en suivant ce fil que l'on sera conduit à analyser aussi la façon dont Huysmans met en scène les voies extraordinaires par lesquelles il est passé de lui-même et à mettre en évidence dans son œuvre l'esthétique de l'incarnation. Ah, je vais essayer de ralentir. L'esthétique de l'incarnation qui en est la traduction artistique. La présence des sacrements dans l'œuvre de Huysmans est pour commencer presque quantitativement significative. En effet, des sept sacrements de l'Église, ce sont le baptême et le mariage qui sont le moins souvent évoqués par lui. De même aussi que la confirmation, tandis que les quatre autres ont dans sa vie et son œuvre une place éminente. Cela n'est qu'à faire pour surprendre. Il fait partie de ces célibataires décrits par Jean Bory ou Monterland, de ces endurcis à l'institution sociale comme au rite institué par l'Église du mariage. Ces héros sont tous des récalcitrants ou des maris malheureux, si l'on accepte le carré de là-bas. Et nombre de ces récits peuvent se lire comme de véritables mises en scène des misères de la vie conjugale. Huysmans a pourtant connu quelque chose de la vie maritale, lui qui vécut en concubinage avec Anna Meunier, sans jamais toutefois vivre sous le même toit. Peut-être aussi un épisode de sa vie personnelle, vaut-il qu'on le rappelle ici, qui semble, en apparence, ne rien faire d'autre que confirmer cette appréhension toute extérieure du sacrement, et qui pourrait peut-être pourtant être mise aussi au compte de la Providence et de sa façon d'aiguiller l'incrédule qui voudrait croire sur une voie perdue dans la nuit. Huysmans eut en effet à la fin de la vie, de Villiers de l'Isle-Adam, dont il était l'ami, à prendre soin de celui qui vivait sans être marié avec une femme dont il avait un enfant. Il œuvra alors pour convaincre Villiers d'épouser Marie d'Antine et faire connaître le petit Victor de toutes ses forces. Dans une lettre du 21 avril 1892, racontant les derniers jours de Villiers à l'un de ses amis, Huysmans décrit la manière dont il s'y prit pour que ce mariage finisse par avoir lieu. Malade d'inquiétude, un matin, j'eus l'idée de m'adresser à l'aumônier des frères Saint-Jean de Dieu, à un franciscain de la Terre Sainte, le révérend père Sylvestre. C'était un compatissant et doux moine qui avait aidé déjà Barbet de Rivilliers à mourir. Je lui rappelais la lamentable histoire qu'il connaissait, car Villiers s'était confessé à lui et avait reçu la communion de sa main. Il me répondit simplement « Venez, attendez-moi là, je vais monter lui dire un petit bonjour. » 5 minutes après, il sortait de la chambre, Villiers consentait au mariage immédiat. Ce franciscain, qui célébra le mariage religieux le 14 août 1889 et qui obtint pour Marie d'Antine de pouvoir passer ses dernières nuits auprès de son mari, chez les frères de Saint-Jean de Dieu, sut toucher le cœur de Huysmans. C'est alors que nous pouvons apprécier l'âme de ce prêtre, écrit-il. Sans doute fut-il l'un des premiers membres du clergé à produire sur lui une telle impression. Il ne fut pas le dernier. Quant au baptême, Huysmans n'en parle jamais. Il fut pourtant baptisé le 6 février 1848, le lendemain de sa naissance, en l'église Saint-Séverin. Mais il n'en est que très peu, voire jamais question, ni dans sa correspondance, ni dans son œuvre. Peut-être pourrait-on mentionner ici le baptistère, dont le dandy des Essintes, dans un rebours, a fait un meuble d'apparat de son cabinet de toilette, comme il a aussi détourné de leur usage sacré d'autres pièces de mobilier liturgique, notamment ce merveilleux canon d'église aux 3 compartiments séparés où s'exposent 3 poèmes de Baudelaire. On conclurait alors à un intérêt tout extérieur, en même temps que minime pour les sacrements. On souscrirait à l'impression de superbe et de perversité que le Père Léonce de Saint-Paul attribuait à l'auteur de là-bas. On lui reconnaîtrait peut-être même une inclination à la profanation ou au blasphème qui reviendrait à lui faire 2 fois injure. Ce serait une première fois lui faire injure en ne tenant pas compte de cet événement décisif de la vie de Huysmans, sa conversion de 1892. Celle-ci se place entièrement sous le signe des sacrements, tant dans la vie réelle que dans sa transposition romanesque, dans En route. Elle a lieu dans une trappe à Igny, où Huysmans opère une retraite d'une semaine durant l'été. Terme d'une évolution spirituelle au long cours, ce séjour a été rendu possible par l'abbé Arthur Munier, vicaire de l'église Saint-Thomas d'Aquin, qui avait rencontré Huysmans l'année précédente, lorsque celui-ci vint lui réclamer du chlore pour son âme, et qui se chargea de le mettre en relation avec les bénédictins. Arrivé au monastère le 12 juillet, ce n'est que 2 jours plus tard que l'écrivain renoue avec les sacrements, ainsi qu'il le raconte à son ami prêtre dans une lettre. Cher monsieur l'abbé, j'ai passé par le plus dur moment de ma vie, la confession. C'est fait, je suis liquidé. J'ai communié ce matin à la messe de l'abbé de Don Augustin et je vous écris, poigné par une tristesse infinie, l'idée d'une indignité absolue, d'une âme mal radoubée qui a donné tout ce qu'elle pouvait, mais qui ne tient qu'à force d'été et qui vacille dans une mélancolie immense, alors qu'elle devrait être joyeuse d'en avoir enfin fini. Le davier m'a fait mal, enfin c'est fait. La crudité du vocabulaire et des images naturalistes ne doit pas masquer la réalité d'un retournement spirituel entamé déjà depuis plusieurs années, mais se heurtant au caractère velléitaire de Huysmans. À cette date, déjà depuis au moins 2 ans, il se rendait régulièrement dans les églises, assistait à des cérémonies dont la liturgie l'attirait toujours davantage. Mais elle ne doit surtout pas cacher l'extrême sensibilité de l'écrivain au sacrement qui s'exprime surtout par ce retournement inattendu entre la confession et la communion. L'abbé Munier le dit de manière sans doute assez juste dans son journal. À la chapelle, il a senti des effluves se dégager et l'envelopper. L'absolution lui fit l'effet du vent qui soulève. La communion lui a produit moins d'impression. Il semble que des 2 sacrements, celui qui produise le plus grand effet et qui fasse advenir de la manière la plus sensible la présence réelle, ne soit pas celui dont on attendait précisément cette communion, ou plutôt cette impression, mais justement l'autre. Et cette impression doit moins être comprise en son sens psychologique et décadent qu'en son sens premier, non pas l'action d'un objet sur la sensibilité en vue de produire une excitation nerveuse, mais bien l'action d'appuyer sur un objet, action d'un corps sur un autre, la trace, l'empreinte laissée par le premier sur le second, par Dieu lui-même sur l'âme de Huysmans. Voilà ce que produit le sacrement. Non pas cependant celui de l'Eucharistie, qui en est le traditionnel moyen, mais de manière inattendue, le sacrement de repentance est précisément le moment de l'absolution, manifestation de l'esprit sous la figure du Spiritus. Tout cela se retrouve dans En route, dont la seconde partie raconte cette expérience, et en particulier dans les chapitres 3 et 4. La conclusion à laquelle il parvient Durtal, le personnage, est bien la même. Il semblait que les 2 sacrements eussent substitué leurs effets l'un à l'autre. Ils avaient manœuvré à rebours sur lui. Le Christ s'était rendu sensible à l'âme avant et non après. Mais les étapes de ce calvaire sont plus détaillées dans le récit romanesque. Pris de court par l'annonce que sa confession aura lieu à 10 heures précises à l'auditoire, Durtal nous est montré au chapitre 2 totalement désemparé, pris entre des consolations déjà données et des doutes qui évolueront bientôt en scrupules. Durtal aurait reçu un coup de maillet sur la tête qu'il n'eût pas été mieux assommé. Tout l'échafaudage, si rapidement exaucé de ses joies, croula. Ce fait étrange avait lieu dans cet élan d'allégresse qui le portait depuis l'aube. Il avait complètement oublié qu'il fallait se confesser. Et il eut un moment d'aberration. Durtal aussi, entre la certitude d'un pardon déjà accordé et l'effroi suscité par l'épreuve des aveux, lorsque tout devient incertain et source d'inquiétude, la personne du confesseur, la manière de s'y prendre, il se laisse alors envahir par les souvenirs et par ce dégoût de soi-même qui marque l'entrée dans sa vie nouvelle, puissamment s'exposant à travers lui les différents moments de la progression spirituelle tels qu'il les a découverts chez sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix. La honte de ses anciennes débauches s'empare de lui, décrite avec un surcroît voulu de réalisme lorsqu'il s'agit d'évoquer la luxure. Et ce péché se montrait d'abord simiesque et sournois au collège où chacun s'attentait et carriait les autres. Puis c'était toute une jeunesse avide, traînée dans les estaminets, roulée dans les auges, vautrée sur les éviers des filles, et c'était un âge mûr ignoble. Comment raconter cela à ce moine ? Ah, je peux ralentir encore si vous voulez. Plus lentement. Trop rapide, très bien. Comment raconter cela à ce moine, se dit Durtal, terrifié par ce souvenir. Comment même s'exprimer pour faire comprendre sans devenir immonde. L'hyperbole naturaliste est partout, dans la peinture des fautes, comme dans le tableau du sacrement. Et cet accablement de soi, qui associe exagération et lucidité, témoigne de la même sincérité que les cris qui parsèment le texte et prennent le ton de la prière. Et il pâlissait à l'idée qu'il allait détailler à un autre homme toutes ses saletés, lui avouer ses pensées les plus secrètes, lui dire ce qu'on ose se répéter à soi-même de peur de se mépriser trop. Il en sua d'angoisse. Puis une nausée de son être, un remords de sa vie le souleva, et il se rendit. Le regret d'avoir si longtemps vécu dans ce cloaque le crucifia. Il pleura longtemps, doutant du pardon, n'osant même plus le solliciter tant il se sentait vil. Enfin, il eut un sursaut. L'heure de l'expiation devait être proche. Sa montre marquait en effet 10 heures moins le quart. À se laminer ainsi, il avait agonisé pendant plus de 2 heures. Sueur d'angoisse, crucifixion, agonie. Cette confession qui n'a pas encore eu lieu, déjà pour Durtal, une expérience mystique, une imitation du Christ. Elle laisse le personnage exsangue, incapable de se confesser 2 heures plus tard, les mots ne venant pas, s'étranglant dans une nouvelle convulsion de larmes, désespéré de se voir repoussé par celui-là même qu'il avait pourtant envoyé dans cette abbaye. C'est au fond du désespoir que surgit alors enfin la douceur, celle du moine qui lui touche l'épaule de la main et lui parle d'une voix douce pour l'inviter à se confesser le lendemain. Et c'est donc le lendemain que le sacrement de pénitence prend finalement véritablement place dans le récit, au 3e chapitre de la 2e partie d'En route. Et ce dédoublement explique en grande partie la prééminence qui est la sienne dans la perspective huysmansienne. Il équivaut à la vie purgative menée par saint Angèle de Foligno, dont Durtal a emporté des œuvres avec lui dans lesquelles il se repose. Le parallèle entre elle et lui est par 2 fois souligné. D'abord lorsqu'il s'agit de choisir entre les œuvres d'Angèle et celles de saint Bonaventure, le personnage de Huysmans optant pour celle qui avait péché, s'était converti, plutôt que pour le saint, toujours demeuré pur, à l'abri des chutes. Pour celle en qui il se reconnaît, puisqu'elle elle aussi avait été une scélérate charnelle, également arrivée de bien loin vers le Seigneur. Ensuite, à la fin du passage, après qu'ont été rapportées ses souffrances, lorsque Durtal tire la leçon de sa relecture. Ils ont en commun une même difficulté au repentir abouti, si l'on en croit à Huysmans, qui s'appuie ici sur la vie de saint Angèle par le frère Arnaud. Je le cite. « Soudain, la grâce fermente en elle et lui fait éclater l'âme. Elle va se confesser, n'ose avouer les plus véhéments de ses péchés au prêtre, et elle communie, greffant ainsi le sacrilège sur ses autres fautes. Elle vit, jours et nuits, torturée par le remords, finit par supplier saint François d'Assise de la sauver, et la nuit suivante, le saint lui apparaît. « Ma sœur, dit-il, si vous m'aviez appelé plus tôt, je vous aurais exaucé déjà. » Le lendemain, elle se rend à l'église, écoute un prêtre qui parle en chair, comprend que c'est à celui-là qu'elle doit s'adresser, et elle s'ouvre pleinement, se confesse entièrement à lui. Et le lendemain, Durtal, lui aussi, se confesse entièrement au prieur, lui avouant tout. Le discours de ce dernier détermine d'ailleurs très largement la suite de notre propos. Entré en convalescence après une conversion miraculeuse au regard de la gravité des fautes, Durtal est, selon le prieur, en danger de rechute et doit s'en prémunir par la prière, la confession et la communion. Mais de ces 3 piliers du traitement préventif qu'il prescrit, c'est le dernier qui l'inquiète. L'on pourrait en effet craindre que dans le cas où vous triompheriez de la chair, le démon ne vous attendit là et qu'il ne s'efforçât de vous éloigner de la communion. Car il sait fort bien que sans ce divin magistère, aucune guérison n'est possible. La Sainte Eucharistie, vous en aurez plus qu'un autre besoin. Vous serez torturé par l'imagination. Elle vous a fait beaucoup pécher et par un juste retour, elle vous fera beaucoup souffrir. Elle sera la porte mal fermée de votre personne et c'est par là que le démon s'introduira et s'épandra en vous. C'est en effet ce qui va se produire. Apprenant au dîner qu'il devait recevoir l'Eucharistie des mains d'un vicaire de passage, un soutanier inconnu, cela lui crève le cœur et le met au supplice, refusant de devoir emporter d'une première communion, un souvenir irritant, une impression pénible. Il se révolte et en arrive à ne plus avoir envie de communier, avant qu'une autre idée ne se mette à l'obnubiler. Devait-il, pour sa pénitence, réciter 10 grains de son chapelet ou 10 chapelets entiers? Et c'est harassé par les hésitations et les remords que Durtal en vient épuisé à prêter l'oreille à toutes les tentations insinuées par le plus grand des sophistes, Satan lui-même, avant de s'abandonner à Dieu dans la prière en lui demandant l'impossible. « Ah Seigneur, si j'étais seulement certain que cette communion vous plaise, donnez-moi un signe, montrez-moi que je suis sans remords, que je puis sans remords m'allier à vous, faites que par impossible demain ce ne soit pas ce prêtre, mais bien un moine. » Mettant en scène son double, Huysmans explore ici les méandres du cheminement spirituel, ou plutôt pour reprendre la métaphore appliquée à Sainte Thérèse, les régions inconnues de l'âme. Comme l'auteur des demeures de l'âme, il s'en fait le géographe, s'essayant lui aussi à dresser la carte de ses pôles, marquer les latitudes contemplatives, les terres intérieures du ciel humain, déléguant tantôt ses analyses aux religieux, prêtres ou moines qui le dirigent, et tantôt à son personnage, dont le lecteur peut suivre pas à pas l'évolution de l'intérieur, tout en supposant à bon droit qu'elle restitue celle de l'auteur. Et cela se poursuit évidemment dans En route, mais aussi tout au long de la trilogie engendrée par ce roman, dans La cathédrale, et dans L'Oblat ensuite. Dans En route, le roman de 1895, tout d'abord, car le miracle réclamé par Durtal a lieu. Comme Huysmans finalement communié par Don Augustin Mare, Durtal l'est par Don Anselme, l'abbé du monastère, celui qui était malade. Ce qui le fait dans un premier temps tomber honteux à genoux et le plonge dans une longue prière. « Seigneur, ne vous éloignez point, que votre miséricorde réfrène votre équité, soyez injuste, pardonnez-moi. Accueillez le mendiant de communion, le pauvre d'âme. » L'expression toute biblique et presque bloyenne de mendiant de communion résume la position huysmansienne à l'égard du sacrement, balançant sans cesse entre l'élan vers le ciboire que suscite par exemple la vue de deux femmes communiantes à Saint-Séverin et le non sum dignus qui vire à la terreur de communier. Sa réticence, créée par la turpidité de la fosse où Durtal peut en faire descendre le puisatier qu'est le Christ, se heurte à la certitude qu'il est vain d'attendre que la fosse soit vide pour se présenter devant la communion, car le pénitent ne serait alors jamais en état de la recevoir. La conscience de son indignité, formulée par la métaphore récurrente du cloaque, est vue comme une nouvelle souffrance ajoutée à celle du calvaire, s'oppose à la fringale eucharistique, sans toutefois l'anéantir. Cette oscillation, qui redouble celle qui opposait une confession d'autant plus efficace qu'elle était douloureuse, à une communion d'autant plus redoutée qu'elle semblait aisée, met finalement en place un véritable drame de l'Eucharistie et crée les conditions par lesquelles celle-ci ne peut manquer d'être décevante au regard de l'autre sacrement. Dans En route, ce drame de la communion trouve son dernier acte dans la réitération des sacrements à la fin du séjour de Durtal, et l'on peut alors revenir à l'autre injure faite au romancier que nous avions laissé jusqu'alors de côté. Cette seconde injure est plus subtile et moins immédiate à déceler. Elle consiste à ne pas mesurer le caractère non seulement extrêmement contradictoire de la personne de Huysmans et des personnages qui en sont les doubles, mais encore la complexité, le mysticisme extraordinaire et paradoxal que cache un certain prosaïsme. Car dans ce drame de l'Eucharistie, Satan joue un grand rôle. Et sans doute, alors, est-ce qu'il faut revenir ici sur le rôle que joue aussi dans son évolution la rédaction de là-bas? Ce roman publié en 1891 tisse, dans la même trame romanesque, deux fils narratifs. Le premier raconte l'histoire de Durtal, déjà, écrivain de la fin du XIXe siècle, lancé dans une biographie de Gilles de Rais, et dont le lecteur suit les échanges et conversations avec ses amis. Le second donne à lire la vie du désessin du XVe siècle, barbe bleue légendaire et seigneur de Tiffauges, celui à côté duquel le marquis de Sade n'est qu'un timide bourgeois, un piètre fantaisiste. Et ce que découvre Durtal au fur et à mesure de son enquête sur le baron de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, c'est un satanisme insoupçonné qui aurait motivé crimes sexuels et meurtres d'enfants et visé l'accomplissement du grand œuvre de l'alchimie pour lequel l'aide du diable aurait été requise. De fil en aiguille, de conversation en intromission, il en vient aussi à prendre la mesure de la permanence du satanisme à son époque. Incarné par le sulfureux chanoine d'ocre, prêtre défroqué qui célèbre des messes noires en souillant des hosties consacrées en plein Paris, le satanisme devient l'un des thèmes principaux du roman, et Durtal, par l'intermédiaire d'une certaine Madame Chantelouve, va s'en approcher jusqu'à la commission de péché qu'il confessera ensuite dans En route. Or, cette expérience durtalienne ne fait que translater par le jeu complexe de l'écriture celle de Huysmans dans la vie réelle. En effet, lancé à la fin des années 80 dans le projet d'une œuvre sur les bas-fonds, Huysmans est entré en contact en février 1890 avec Joseph-Antoine Boulan, dont l'influence a été sur lui décisive. Modèle du docteur Johannes de Labat, puis de l'abbé Gévresin, dans les romans ultérieurs, il n'en partage pas moins un certain nombre de points communs avec Docre. Défroqué, il se voulait quant à lui exorciste, mais se trouvait à la tête d'une secte hérétique lyonnaise se réclamant du vintrasisme et dans laquelle se célébrait, entre autres rites hétérodoxes, le sacrifice provictimal de Marie. C'est ce personnage étonnant qui va fournir à Huysmans une documentation de première main sur le satanisme et la magie noire. C'est lui encore qui le fait adhérer à la croyance au succubat qui transparaît dans En route, ou lui fait découvrir la doctrine de la substitution mystique telle qu'elle trouvera à s'exprimer paroxystiquement dans son hagiographie de Sainte Lidouine de Schiedam. On pourrait en conclure, comme l'ont fait certains adversaires, détracteurs de Huysmans à l'époque, à l'insincérité ou à l'hétérodoxie de sa conversion. Pourtant, il faut rappeler que là ne s'arrête pas le rôle de Boulan dans le retour de Huysmans à Dieu. D'abord parce qu'il est aussi celui qui lui a fait découvrir la Salette, et par là l'attache au culte marial d'une hyperdulie dont il ne se défera plus jamais. Mais encore et surtout parce que Boulan est pour lui le grand médiateur de la littérature mystique, celle d'Angèle de Foligno ou de Marie d'Agreda. Mieux vaudrait donc, si l'on veut mesurer le rôle du démon dans cette conversion, observer le destin du sataniste décrit à travers la figure de Gilles de Rais dans Là-bas. Car celui-ci y est bien avant tout décrit comme un mystique. Par des Hermies, d'abord, lorsque celui-ci le présente à Durtal, un homme dont l'âme était saturée d'idées mystiques, dit-il, du compagnon de Jeanne d'Arc, un vrai mystique. Mais surtout par Durtal lui-même, dans les bonnes pages de sa biographie que le roman met en abîme. Car le principe affirmé par son ami des Hermies, selon lequel Gilles de Rais représenterait le passage du mysticisme exalté au satanisme exaspéré, en vertu de cette règle selon laquelle, dans l'au-delà, tout se touche, Durtal le voit s'illustrer une nouvelle fois à rebours au moment du procès durant lequel le pécheur se repent, demande pardon de ses fautes aux parents des enfants qu'il a assassinés, et l'obtient. Au moment où, après que l'accusateur l'a invité à prier pour que la juste et épouvantable colère du Très-Haut se taise, ayant fait acte de contrition et de pénitence, il se trouve seul dans sa geôle. Seul, il s'était ouvert et il avait visité ce cloaque qu'avait si longtemps alimenté les eaux résiduaires échappées des abattoirs de Tifauge et de Machecoul. Il avait erré, sangloté sur ses propres rives, désespérant de pouvoir jamais étancher l'amas de ses effrayantes boues. Et foudroyé par la grâce, dans un cri d'horreur et de joie, il s'était subitement renversé l'âme. Il l'avait lavé de ses pleurs, séché au feu des prières torrentielles, aux flammes des îlots fous. Le boucher de Sodome s'était renié, le compagnon de Jeanne d'Arc avait reparu, le mystique dont l'âme s'essorait jusqu'à Dieu, dans des balbuties d'adoration, dans des flots de larmes. Comment ne pas voir dans ce mystique épris d'absolu et revenu de loin l'image du repentant qu'est Durtal dans En route? C'est cette proximité avec le diable que Huysmans s'appelle les voies extraordinaires de la grâce quand il analyse son propre destin dans la préface à rebours. C'est elle aussi que pointe le père hôtelier de Notre-Dame de Lattre, en reconnaissant dans les tourments de Durtal, après sa communion, l'épreuve d'une nuit obscure et les assauts du démon. Les tentations contre la foi et les souvenances charnelles, la pluie des scrupules et la tempête des doutes avant le coup de foudre de la luxure, finalement, le silence de Dieu. « Ah, c'est affreux, je le sais, dit l'hôtelier. Dieu se cache et on a beau l'appeler, il ne vous répond pas. On se croit délaissé et cependant, il est près de vous et tandis qu'il s'efface, Satan s'avance. » C'est sa voix, celle de Satan, railleuse, qui se fait entendre en Durtal pour remettre en question tous les articles de la foi. C'est elle qui fait surgir la vision du corps de Florence dans la cellule du retraitant. C'est elle qui, de loin en loin, amène Durtal jusqu'au seuil de l'abîme. Malgré la terreur qui le galopait, il se pencha, fasciné, sur ce trou, et à force de fixer le noir, il distingua des apparences. Dans un jour d'éclipse, dans un air raréfié, il apercevait au fond de soi le panorama de son âme. Un crépuscule désert, aux horizons rapprochés de nuit. Et c'était sous cette lumière louche, quelque chose comme une lande rasée, comme un marécage comblé de gravats et de cendres. La place des péchés, arrachée par le confesseur, restait visible, mais sauf une ivraie de vis sèche qui rampait encore, rien ne poussait. Psychologue de l'âme mystique, Huysmans s'aventure là où la psychologie naissante dédaigne d'aller, scrutant l'action de la grâce sur le pécheur en route vers la rédemption et s'attardant sur ces détours surprenants qui semblent parfois l'éloigner de Dieu, ces chemins qui sont aussi ceux d'un calvaire reparcouru à l'imitation du Christ, marquant de nouveau les mêmes stations. Le seul remède à tous ces maux, le moine le fait savoir sans ambiguïté à Durtal, c'est la Sainte Eucharistie. Il sera donc communié la nuit même après s'être confessé à 3 heures. Alors, doucement, sans effet sensible, le sacrement agit. Le Christ ouvrit peu à peu ce logis fermé et l'aéra. Le jour rentra à flot chez Durtal. Des fenêtres de ses sens qui plongeaient jusqu'alors sur il ne savait quel puisard, sur quel enclos humide et noyé d'ombre. Il contempla subitement dans une trouée de lumière la fuite à perte de vue du ciel. Sa vision de la nature se modifia. Les arbres bruissaient, tremblant dans un souffle de prière, s'inclinaient devant le Christ qui ne tordait plus ses bras douloureux dans le miroir de l'étang, mais qui étreignait ses os, les éployait contre lui en les bénissant. C'était un salut de la nature. Une génuflexion d'arbres et de fleurs, chantant dans le vent, encensant de leur parfum, le pain sacré qui resplendissait là-haut, dans la custode embrasée de l'astre. Durtal regardait, transporté. Durtal et avec lui Huysmans sont ainsi découverts ce scandaleux paradoxe mystique. La première communion exaspère l'action diabolique, tandis qu'une seconde la réprime. On pourrait sans doute s'arrêter là. Ce serait néanmoins incontestablement manquer quelque chose de la dimension sacramentelle de cette conversion et de son œuvre. En effet, un élément manque encore au tableau, pourtant essentiel. Car évoquant là-bas, il aurait déjà fallu immédiatement signaler que l'attrait du satanisme y est d'emblée contrebalancé par la fascination exercée par l'art. Ce qui conduit à Dieu, ce n'est pas seulement le diable, mais la beauté. Dans le premier chapitre du roman de 1891, Durtal se souvient ainsi d'un tableau du peintre allemand Matthias Grünewald, une crucifixion que Huysmans avait réellement contemplée au musée de Cassel en 88 et qui avait produit sur lui une vive impression. Au-dessus de ce cadavre en éruption, la tête apparaissait tumultueuse et énorme, cerclée d'une couronne désordonnée d'épines. Elle pendait, exténuée, entr'ouvrait à peine un œil hâve où frissonnait encore un regard de douleur et d'effroi. La face était montueuse, le front démantelé, les joues taries, tous les traits renversés pleuraient, tandis que la bouche décellée riait avec sa mâchoire contractée par des secousses tétaniques atroces. Ce qui le fascine ici, c'est le réalisme de l'observation clinique du corps crucifié, dont on dit que le peintre la fonda sur l'examen de cadavres atteints du mal des ardents, et que l'écrivain essaie de restituer par l'emploi de termes naturalistes. De même que Grünewald, rejetant la représentation esthétisante d'un corps christique, où les marques de douleur ont été estompées, Huysmans s'évertue à produire l'hypotypose qui donne à voir le corps de Dieu en soulignant ce qu'il a de plus humain. Ce qu'il trouve chez Grünewald, c'est le modèle d'un artiste qui ne sacrifie rien de la dimension spirituelle au réalisme, sans pour autant renoncer à ce dernier. C'est cela qu'il nommera naturalisme spiritualiste ou naturalisme mystique. Mais ne pourrait-on pas dire aussi sacramentel, c'est-à-dire la peinture n'y acquiert-elle pas une puissance eucharistique dont l'écriture aurait à s'inspirer. Voici encore ce qu'il dit de Grünewald. Certes, jamais le naturalisme ne s'était encore évadé dans des sujets pareils. Jamais peintre n'avait brassé de la sorte le charnier divin et si brutalement trempé son pinceau dans les plaques des humeurs et dans les godets sanguinolents des trous. C'était excessif et c'était terrible. Grünewald était le plus forcené des réalistes. Mais à regarder ce rédempteur de vadrouille, ce dieu de morgue, cela changeait. De cette tête exulcérée filtrait des lueurs. Une expression surhumaine illuminait l'effervescence des chairs, l'éclampsie des traits. Cette charogne éployée était celle d'un dieu et sans auréole, sans nimbe. Dans le simple accoupement de cette couronne ébouriffée semée de grains rouges par des points de sang, Jésus apparaissait dans sa céleste supérescence. C'est cette même idée d'une peinture eucharistique fondée sur une véritable esthétique de l'incarnation, qui est aussi formulée dans l'autre texte que Huysmans a consacré à Grünewald, un texte de critique, cette fois, dans 3 primitifs. À propos du Christ en gloire, du retable d'Isenheim, cette fois, qui donne à voir un Christ transfiguré au sortir du tombeau, Huysmans affirme que Grünewald s'y révèle tel que le peintre le plus audacieux qui ait jamais existé, le premier qui ait tenté d'exprimer, avec la pauvreté des couleurs terrestres, la vision de la divinité mise en suspens sur la croix et revenant visible à l'œil nu au sortir de la tombe. Nous sommes avec lui en pleine halalie mystique, devant un art sommé dans ses retranchements, obligé de s'aventurer dans l'au-delà, plus loin qu'aucun théologien n'aurait pu cette fois lui enjoindre d'aller. La formule à présent fait sens. L'art, comme la bête que les chasseurs ont forcée et cernée, rend visible l'invisible, dans une théophanie dont le modèle est le sacrement eucharistique lui-même. Il n'est pas anodin que Huysmans ait providentiellement fait la découverte de cet art-là dans les années de préparation de là-bas. Cet art qui prit aussi pour lui la forme de la musique et du plein chant, de l'architecture, de la littérature mystique et de la liturgie. Cet art qui était déjà au cœur d'Arebourg en un temps où la mystique de l'art ne l'avait pas encore cédé chez lui à l'art mystique, est en effet tout à la fois le complément du satanisme et du boulanisme qui le mettent également de plein pied avec l'absolu, mais aussi son antidote, comme l'est la communion aux tentations diaboliques. C'est cet art précisément qu'il décrit dans la cathédrale et dont il va faire le monument. Paru en 1898, ce roman, si c'en est un, est entièrement dévolu à la cathédrale de Chartres. Il peut passer à bien des égards pour un guide de la cathédrale, comme il s'en écrivait alors, et par exemple le guide chartrain de l'abbé Clerval. Mais il en est aussi radicalement différent pour deux raisons. La première tient à la nature encyclopédique et ontologique du projet huysmansien dans cette œuvre. Il s'agit ni plus ni moins que d'y révéler, d'y exposer ce qui est pour lui la clé de lecture de l'ensemble des productions de l'art ecclésial, qu'il appelle symbolisme. Qu'est-ce qu'un symbole ? Il en offre plusieurs définitions. Celle de Littré, une figure ou une image employée comme signe d'une autre chose. Ou mieux celle du duc de Saint-Victor, le symbole est la représentation allégorique d'un principe chrétien sous une forme sensible. Il faut entendre par là que le symbole est un signe, mais qui loin de seulement concrétiser, incarne. Et incarne ce qui est appelé ici principe chrétien, manifeste sous une forme sensible le principe qu'il a engendré. Huysmans en donne de multiples exemples, j'en prendrai un seul, l'exégèse de l'architecture extérieure de Notre-Dame de Chartres. Le mot d'exégèse est celui qui convient, puisqu'il s'agit d'y déchiffrer une superposition de symboles en considérant l'Église comme un livre, et plus précisément de la lire comme le christianisme médiéval la lisait, c'est-à-dire, comme l'a très bien montré Dominique Millet, à propos de Huysmans aussi bien qu'à propos de Claudel, qui avait lu la cathédrale, suivant la méthode allégorique des quatre sens de l'écriture. Ainsi s'explique la métaphore filée qui traverse l'ensemble de l'ouvrage. La cathédrale est lisible. Elle est un palimpseste déchiffrable, dont la clé est la symbolique des écritures. Romane et gothique parce que le roman allégorise l'Ancien Testament comme le gothique le Neuf. Le bâtiment donne donc à voir en des lignes sculptées ou peintes, la Bible, la théologie, les vies des saints, les évangiles apocryphes, les légendaires, mises à la portée de tous. Mais surtout, comme la Bible, il se lit en démultipliant les strates de signification. Telle statue d'un personnage de l'Ancien Testament renverra d'abord à lui-même, qu'il s'agit d'identifier, mais encore à un personnage du Nouveau dont il est la figure. C'est le cas par exemple de l'Abraham, représenté au porche septentrional, qui figure le Père Céleste qui livre son Fils, et Isaac qui porte le bois pour allumer son bûcher comme Jésus porta sa croix, à l'image de ce fils. Tandis que Moïse allégorise le Christ car la délivrance d'Israël est le prodrome de l'humanité arrachée par le Sauveur aux démons. Et plus encore, tel ou tel élément de l'ensemble prendra une valeur morale figurant tel vice ou telle vertu chrétienne. Le vaisseau chartrain, éternelle image de l'arche de Noé et de cette barque de pierre que Jésus guidait dans les tempêtes, figure l'Église comme corps du Christ, dont elle prend la forme en donnant à sa nef une disposition cruciale. Les tours, les clochers s'envisagent ainsi que les prédicateurs et les prélats, et leurs sommets sont l'analogie de cette perfection que cherchent à atteindre en s'élevant leurs âmes. Mais cette lapidification, cette traduction en pierre des vérités bibliques et morales, prophétiques et anagogiques, ne se réduit pas à un simple accommodatisme. Il est bien au contraire sacramentel. Le plus bel exemple qu'on en trouve dans la cathédrale est aussi celui qui constitue la deuxième raison qui distingue l'œuvre d'un simple guide touristique. Cette seconde raison tient à l'incarnation de la Vierge, si j'ose dire. L'ensemble du roman se conçoit en effet comme une célébration de la Vierge à travers la description de la cathédrale, qui est la figure au sens où nous l'avons définie, et finalement comme une prière mariale. Car il ne faut pas s'y tromper, la cathédrale vue par Huysmans n'est pas seulement la réalisation de son rêve de spiritualisation de la chair pécamineuse et opaque, transfigurée en chair mystique et transparente. L'épurement et l'effilement du corps que Huysmans prise chez les peintres flamands, les littérateurs mystiques, n'est pas effacement du corps. Celui de la cathédrale n'est pas désincarné, tout au contraire. Certes, elle apparaît à Huysmans sous les traits d'une blonde aux yeux bleus. Elle se personnifiait en une sorte de fée pâle, en une vierge mince et longue, aux grands yeux d'azur ouverts dans les paupières en clarté de ses roses. Mais l'Église réalise par là le programme même de la symbolique religieuse, cette grande science du Moyen-Âge, Ce moignage, il savait que sur cette terre, tout est signe, tout est figure, que le visible ne vaut que par ce qu'il recouvre d'invisible. Rendant visible la Vierge, la cathédrale, devient le lieu même de la rencontre avec la mère d'abord, mais à travers elle, avec le Fils vers lequel elle nous guide. Et n'est-ce pas cela que dit avec émotion la prière finale qui fait l'acmé du roman, sa dernière page ? Il me semble que je l'aperçois dans les contours, dans l'expression même de la cathédrale. Les traits sont un peu brouillés, dans le pâle éblouissement de la grande rose qui flamboie derrière sa tête, tel qu'un nimbe. Elle sourit et ses yeux tout en lumière ont l'incomparable éclat de ses clairs saphirs qui éclairent l'entrée de la nef. Son corps fluide s'effuse en une robe candide de flammes, rayée de cannelures, côtelée ainsi que la jupe de la fausse Berthe. Son visage a une blancheur qui se nacre et la chevelure, comme tissée par un rouet de soleil, vole en des fils d'or. Elle est l'épouse du cantique, Pulchra ut Luna, Electa ut Sol. La basilique où elle réside et qui se confond avec elle s'illumine de ses grâces. Voilà ce que Huysmans découvre à travers l'art de la liturgie et qui l'a ramené à la foi. C'est cette eucharistie esthétique qui le convertit et c'est elle aussi qui, après sa conversion, nourrit sa littérature. Merci.
Merci. Il est une phrase de l'évangile de ce dimanche qui m'a poursuivi pendant toute cette conférence. C'est quand Jésus dit « Lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tout à moi ». Qu'est-ce que cette élévation ? L'élévation sur la croix, genre Grunewald. L'élévation dans la gloire, le Christ ressuscité et illuminé. On a quelquefois la tentation de choisir l'un ou l'autre. Non, c'est cette difficile et lourde combinaison des deux qui est la véritable aventure. Vous avez parlé de méandre, de la vie et du combat spirituel. J'entendais pour finir l'invitation au début du carême, convertissez-vous, croyez à l'évangile, le règne de Dieu s'est approché. N'oublions pas l'essentiel de ce chemin auquel nous sommes invités, de le parcourir généreusement. La conférence continue avec M. Gaël Prigent dans les salles paroissiales en sortant par le transept nord de l'église et la prière continue dans le sanctuaire avec l'adoration du Saint-Sacrement, la célébration des vêpres et la messe vespérale à 18h30. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, ce sera la dernière conférence à l'occasion de la fête des Rameaux et le personnage présenté sera Marie-Noël. Merci à vous.
Merci beaucoup.